Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
C'est énorme ce qui s'est passé les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Tintin Hebdo sort aujourd'hui même en kiosque. Tintin, c'est le magazine qui ne ressemble à aucun autre. Tintin, c'est le dernier né de l'année de la bande à 21 et 6 mois, ceux-là même qui ont inventé les MOOC, ces revues distribuées en librairie, réhabilitant le temps long et la lecture papier. Ceux-là même qui signaient alors le manifeste pour un autre journalisme. Garde à vous, cet autre journalisme qui ne ressemble à aucun autre. Donc, s'attaque au marché en berne de la presse hebdomadaire, pariant sur les kiosques, pariant sur la proximité avec le lecteur, la communauté des abonnés, le pied de nez au parisianisme, revendiquant son indépendance économique. On y lira donc ce qu'on n'y lit pas ailleurs.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Enfin, on va voir, ça va être tout l'enjeu de cette émission. On est vendredi, je vous parle de nous et je vous parle de vous. Nous, c'est Violaine Balaire, Edouane Tella, Anne-Cécile Perrin, que je remercie chaleureusement de réaliser et de préparer l'instant M. L'émission est tellement courte que j'arrive jamais à dire leur nom à la fin de l'émission. Alors j'ai décidé que je le disais au début, ainsi que celui de notre technicien Sacha Trob. Sinon, mes amitiés à Pascal, qui est un hilarant auditeur de l'Instant M. Je lis son message. Nous avons reçu cette semaine Jean-Luc Lemoine, qui est humoriste, puis Anne-Elisabeth Lemoine, animatrice sur France 5. Et Pascal m'écrit « Deux Lemoine d'affilée ». Est-ce un complot contre la laïcité? Eh bien oui, Pascal, c'en est un. Et aujourd'hui, j'ai carrément invité un saint. Bonjour, Patrick de Saint-Exupéry.
Bonjour, Sonia.
Vous faites partie d'un grand complot contre la laïcité.
Je crois pas.
Non, mais il est très drôle, Pascal, avouez. Oui. Quand j'ai des auditeurs aussi sympathiques et intelligents que vous avez de bons lecteurs. Allez, un mot d'actu d'abord. France 3, Rhône-Alpes, lundi.
Comme promis, nous démarrons aujourd'hui une série de 5 reportages centrés sur Laurent Wauquiez, le président de notre région, fraîchement élu à la tête du parti Les Républicains. Une série qui tentera de cerner sa personnalité et ses ambitions.
Série suspendue. Après le volet portant sur son action économique à ce président de région, en interne, on dénonce d'ailleurs des pressions de l'entourage de Laurent Wauquiez. André Faucon, directeur régional de France 3, s'explique dans un courrier aux collaborateurs. Je le cite, le travail d'enquête a été mené avec rigueur, mais la version montée manquait d'objectivité. La diffusion est simplement différée. Les épisodes 4 et 5 de cette série seront programmés normalement. Reste que les syndicats à France 3 pointent des droits de réponse d'une durée exorbitante accordée le week-end prochain à Laurent Wauquiez sur l'antenne. Du jamais vu, déclare-t-il au Monde. On est vendredi et tous les vendredis on joue avec vous, c'est l'instant Madeleine. C'est parti, dès que vous reconnaissez cet indicatif de radio, vous vous ruez sur votre mail qui est déjà tout prêt à partir. Je vous connais maintenant, je vous ai percé à jour. Et le premier arrivé gagne ce bouquin paru aux éditions du Seuil qui est intitulé « Je reviens, point d'exclamation, vous êtes trop con ». Texte et photos de Jean-Yann, c'est une petite merveille. Patrick Cohen serait encore là, il vous l'aurait piqué de rechef, parce qu'il avait une passion pour le cinéma français de ces années-là. Bref, de quelle émission ceci est-il l'indicatif ? L'Instant M à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Patrick de Saint-Exupéry, Hebdo sort en kiosque aujourd'hui. Le H a disparu du titre. Mais vous en avez glissé un petit H qui serait quelque part en trop dans le journal et vous organisez chaque semaine un jeu de piste. Donc vous aussi, vous faites jouer vos lecteurs comme je fais jouer mes auditeurs. Il y a un cadeau à gagner.
Il y a un cadeau à gagner, je peux pas dire lequel,
mais
il y a un cadeau à gagner.
Pas dire.
Parce, voilà, on est toujours en train d'y réfléchir. Vous savez, c'est une histoire qui s'écrit en marchant. Donc voilà, mais il y a un cadeau à gagner.
Un dîner en tête-à-tête avec Valérie Trierweiler, quelque chose de...
Plein de possibilités.
Il y a plein de possibilités. On peut aller jusque-là.
Non, j'en sais rien. Non, en tout cas, le H, effectivement, ça s'écrit E-B-D-O, Hebdo. Le H est tombé. Et oui. Comme on aime bien être au complet, bah, il se retrouve ailleurs dans les pages de ce magazine.
Bien, c'est très pérec et c'est très rigolo. Hebdo, titre trouvé par un lecteur, Dominique, il habite à Lille, c'est très sympathique. Bon, il n'y a pas de H, mais quand même, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Quand Yann Barthès crée un magazine télé quotidien, il l'appelle Quotidien. Quand France 2 réinvente son émission politique, eh ben France 2 l'appelle l'émission politique. quand Delahousse installe de nouveaux formats d'émissions d'information, il les appelle par leur heure et par leur jour de diffusion. Ça donne 19h le dimanche, par exemple, ou 20h30 le dimanche. Est-ce qu'il y a une panne d'inspiration généralisée, Patrick de Saint-Exupéry, ou une offre tellement pléthorique que vous, médias, qui vous lancez, il faut tout simplement dire qui vous êtes le plus, on va dire, la façon la plus fonctionnelle qui soit et la plus efficace qui soit, c'est ça ?
Je crois qu'il y a un besoin de simplicité. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de revenir à des énoncés très simples. Et puis, vous savez, lorsqu'il y a un titre qui apparaît ou une émission qui apparaît, il y a son titre original. Et ensuite, ce sont les lecteurs, les auditeurs qui font cette émission, qui lui donnent son âme. Donc, voilà, un mot, il doit être approprié. Et ça n'est pas l'éditeur qui doit donner un sens, ce sont les lecteurs, les auditeurs qui vont peu à peu s'approprier ce mot et le faire vivre. Donc, hebdo, sans H, ça va être un mot qui est proposé. Et après, il appartiendra au lecteur de le faire vivre. Mais l'éditeur se dessaisit à ce moment-là.
Vous avez 30 ou 40 ans de carte de presse derrière vous. Et Le Monde, Libération en 68, Le Figaro, pour lequel vous avez longtemps travaillé. Quel souffle, quelle ambition, quelle promesse quand même dans ces noms de papier, non ?
Oui, mais dans les deux, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup d'ambition. Notre ambition, en fait, c'est une ambition un peu paradoxale. Parce que notre ambition est de revenir à une forme de simplicité. De revenir à une idée qui, de presse généraliste. D'une presse qui parvient, qui s'adresse à parler à tous. Voilà, c'est ça notre idée. Elle est toute simple.
D'ailleurs, vous en avez fait une sorte de petit clip, de petite pub.
L'information se crée et nous effleure à coups d'alerte, de titres et d'images chocs. Jamais nous n'avons eu autant de moyens de nous informer. Le nombre d'informations en circulation augmente chaque jour, et pourtant la confiance envers les médias ne cesse de baisser. Nous pensons qu'il y a une alternative. Nous souhaitons être bien informés. Hebdo, c'est votre journal.
Alors d'abord, c'est votre journal par son prix. 3,50€, 100 pages, pas de pub. Pour le coup, c'est un rapport, on va dire, poids et quantité d'imprimés face à l'euro qui est pas banal. Un hebdo pas cher. Quand il comprend à la fois des enquêtes, des reportages, la recette de cuisine et les mots croisés du week-end, le conseil culture, la rubrique pour les enfants, même une histoire à leur lire dans le même numéro, est-ce qu'il s'adresse tout simplement à des lecteurs qui n'ont plus les moyens de s'acheter plusieurs titres de presse chaque semaine, Patrick de Saint-Exupéry ?
Non, il s'adresse à tout le monde. Enfin, on peut avoir différents titres.
Oui, mais quand même, le prix de la presse, c'est une vraie question en France.
Mais c'est une vraie question. Oui. Mais nous, ce qui nous frappe, ça fait des années qu'on parcourt la France, les librairies, qu'on rencontre des gens au travers de 21, de 6 mois d'hebdo. On a fait une tournée à travers la France. Et nous, ce qui nous frappe, c'est le poids des représentations. Tous, naturellement, nous avons tendance à nous créer des représentations. Et dès qu'on est dans la rencontre, dans l'échange, quel est le propos des rencontres? Contre des échanges, c'est qu'elle force à éclater ses représentations. Et donc, c'est très difficile de raisonner en propos généralistes, même si on est obligé intellectuellement. Mais on doit savoir que c'est une facilité. Et après, on doit, et c'est là où est tout le travail, se projeter le lecteur individu dans sa vie, dans la vie des uns des autres. Et nous sommes tous pleins de paradoxes. Et ces paradoxes-là finissent par faire des communautés, mais c'est des communautés de paradoxes. Et c'est pas des cibles, c'est pas des gens qu'on met dans des cases, c'est pas des personnes qu'on peut enfermer. Nous sommes tous en permanence, à la fois dans la boîte et en même temps en train d'exploser cette boîte. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Et donc lorsque l'on parle...
Donc vous n'avez pas de cible, mais vous adoptez quand même une langue relativement simple, une maquette simple, une maquette très populaire, un prix très bas. J'ai lu dans la presse un de vos contributeurs qui ne disait pas son nom mais qui disait finalement, ils sont en train de fabriquer le journal de la France d'en bas, sauf qu'ils ne veulent pas le dire.
Je sais pas, moi je pense que nous voulons faire un journal pour la France, pour les gens. La France d'en bas, la France d'en haut, je sais pas très bien ce que ça veut dire, parce si je dis la France d'en bas, ça veut dire que je me place en haut. Si je parle de la France en haut, ça veut dire que je me place en bas. Ça veut dire que c'est moi qui choisis cette position. Je n'ai pas à choisir de position. Moi je veux être le journal de la vie. Enfin, on veut être un journal qui vit, un journal qui parle.
Alors la question du prix, c'est la question de l'accessibilité à l'information, forcément. Parce que vous avez beau dire, quand même, aujourd'hui ça devient très difficile de s'acheter des quotidiens, plus un hebdo le week-end, plus un journal pour les enfants, plus de quoi faire des mots croisés dans les transports en commun. Globalement, pour la bourse des Français, c'est devenu très très compliqué. Donc il y a quand même une vraie question d'accessibilité à l'imprimé et à l'information imprimée.
Tout à fait, tout à fait. Accessibilité, générosité, envie de partager les choses, envie de se parler aussi. Mm-hmm. Bah parce que c'est aussi une des particularités d'Hebdo, c'est la présence des lecteurs, c'est les lecteurs qui vont être là avec nous tout au long de ce chemin. C'est quand même un journal qui sort aujourd'hui en kiosque qui a déjà 8000 abonnés. C'est assez incroyable. Donc c'est revenir à ces valeurs, à ces notions-là qui sont des notions toutes simples. C'est faire confiance, être généreux, être dans la proposition, se dire on peut se parler et on doit se parler. Sortir un peu de nos cases.
Alors ça commence par exemple par un séquençage pas habituel du tout. Hein, par exemple, je donne un exemple parmi d'autres. On est habitué à lire la culture à la fin d'un magazine. Vous, vous finissez par la science et par l'histoire. Vous, vous placez un reportage photo, plutôt loisir, sur un parc berlinois, avant votre enquête sur les médiums dans la justice par exemple.
Oui, c'est un journal un peu qui casse les codes, un certain nombre de codes, sans volonté de casser, mm-hmm. mais juste pas parce que nous avons le sentiment que l'écriture aujourd'hui de la vie des gens a changé, que on peut plus mettre les choses dans des cases étrangers, politiques, sociétés, comme si le monde était une sorte de jeu d'échecs mm-hmm. avec des cases mm-hmm. noires, blancs, et puis mm-hmm. chacun va à sa case. On a le sentiment que la vie est différente. Et Hebdo, tout ce travail d'écriture à l'intérieur d'Hebdo, qui est d'abord un travail de simplicité, parvenir à retrouver des mots simples, mais les mots simples, c'est beaucoup de travail. Oui. C'est très facile de faire compliqué, c'est beaucoup plus difficile de faire simple sans rien céder à la simplification.
Alors, vous revendiquez par ailleurs, et c'est l'édito de l'Hebdo, ce magazine qui ne ressemble à aucun autre, ni par son format, on l'a dit, ni par son contenu. Et en même temps, quand on vous lit, Patrick de Saint-Exupéry, il n'y a pas une très grande originalité dans vos sujets. Une enquête sur l'amiante, on en a lu beaucoup. Ouvrir une rubrique science par un sujet sur l'intelligence artificielle, bah, c'est très attendu. Le sujet sur la libraire ambulante qui parcourt la France avec son camion, c'est vu 100 fois dans la presse quotidienne régionale. Un grand dossier sur les loups, par exemple, les enjeux de la réintroduction ou la dimension fantasmatique de l'animal, voilà qui a déjà été fait et refait. Donc en quoi il ne ressemble à aucun autre, puisque ces sujets-là, on les a beaucoup vus et beaucoup lus?
Oh, c'est juste une chose toute simple, Sonia, c'est que vous avez vu ces sujets 100 fois. Vous les avez vus, je les ai peut-être vus aussi. Un certain nombre d'entre nous, journalistes professionnels, journalistes qui nous consacrons en permanence à suivre les médias, et c'est notre monde, c'est chez nous, donc c'est normal que nous soyons les sens en permanence aux aguets. Mais êtes-vous certaine
non.
que tout le monde l'ait vu, cette librairie ambulante en Ardèche? Êtes-vous certaine que la connaissance sur les loups soit aussi bien partagée que vous l'énoncez? Moi, je n'en suis pas certain. Moi, je pense que...
D'ailleurs, vous voilà, dites, hein, vous dites en ouverture pensons, du journal, vous dites qu'il faut trop souvent une expertise et des références à l'actualité chaude que nos lecteurs ne peuvent pas absorber.
Mais voilà, nous absorbons, nous sommes dans notre monde, mais les gens ont une vie aussi, ils ont une famille, des enfants, un travail, des obligations, des responsabilités. Ils ne peuvent pas tout savoir. Vous savez, en dehors de nos domaines de compétences, il y a quand même une chose de base, c'est que nous avons tous 14 ans. Nous avons tous 14 ans en dehors de nos domaines de compétences. Quelqu'un qui va être un expert du soleil ne pourra peut-être pas dire le nom d'une pâquerette. Voilà, c'est comme ça la vie.
Et du coup, vous revendiquez justement de sortir de cette pression permanente d'une actualité qui chasse l'autre. Vous ouvrez d'ailleurs sur un grand papier hein, montrant l'état de l'opinion française, beaucoup plus favorable à ce qu'on pouvait imaginer sur la fin de vie, la procréation assistée. On est bien d'accord, c'est le sondage paru dans La Croix la semaine dernière. Ça a fait toute l'ouverture des journaux la semaine dernière. Et vous, ça vous dérange pas d'ouvrir sur un sujet de la semaine dernière? Non, 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 me dit-il en agitant la tête avec un grand sourire.
Parce que ce sondage était passionnant, pas parce que ce sondage, bien entendu, on en a parlé. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y avait un moment donné le tam-tam. Et c'est normal qu'il y ait ce tam-tam parce qu'il était justifié, mais on a le droit de revenir aussi dessus, de le poser. Il y a des chiffres, il y a des axes qui sont donnés, c'est extrêmement simple. Mais encore une fois, ne pas se dire que tout le monde sait, revenir à cette connaissance.
Ah, c'est une question que moi-même je me pose
partager,
vraiment.
Parce qu'on le sent souvent. Aujourd'hui, nous sommes tous débordés d'informations. Nous sommes débordés d'informations, mais quelle est l'information essentielle? Quelle est l'information pertinente? Quelle est celle qui va nous permettre de nourrir nos vies? C'est celle-là, et c'est celle-là que nous allons essayer d'attraper, que nous essayons d'attraper.
Alors, se déconnecter de l'actualité, ça peut poser parfois des problèmes. Dans votre rubrique culture, on sent bien que vous voulez vous proposer l'interview d'une personnalité qui n'est pas un artiste nécessairement. Vous voulez que le rapport à la culture soit incarné, soit porté par quelqu'un. Vous choisissez Serge Papin, président de Système U. qui est là à raconter ses livres, ses films préférés et tout, alors même que Système U est mouillé dans le scandale Lactalis. On en parle tous les jours cette semaine, et là pour le coup ça concerne vraiment la vie des gens, la qualité de ce qu'on vend en grande distribution, Patrick de Saint-Exupéry. Donc il y avait quand même vraiment d'autres questions à lui poser, à Serge Papin, non?
Mais oui, mais là il y a un télescopage, c'est des choses qui arrivent aussi, on ne maîtrise pas tout. Ouais. Vous savez, il y a quelque chose quand même, que nous, journalistes, ouais, arrêtions parfois de faire semblant de tout maîtriser. La vie nous surprend aussi comme elle surprend nos auditeurs ou nos lecteurs. On ne sait pas tout. Nous sommes des gens comme tout le monde. Nous avons nos compétences et nous avons aussi nos failles. Il faut être capable de retrouver cette position.
Alors, en même temps, soyons quand même honnêtes, vous n'êtes pas toujours dans cette posture d'humilité, Patrick de Saint-Exupéry, quand on feuillette Hebdo, quand on lit cette grande enquête de Anne Jouan sur la SNCF, qui pour le coup est assez trapue, c'est de l'investigation, vous sortez beaucoup de choses, etc. Vous vous permettez aussi un grand encadré sur Guillaume Pépi, contrôle la presse et les médias. Donc là, vous n'êtes pas du tout dans une posture d'humilité, au contraire. Vous dites bien, Guillaume Pépi a des réseaux dans tout Paris. Bon, excusez-moi, c'est pas vraiment un coup pour quelqu'un qui est à ce niveau-là de pouvoir. Et ensuite, vous dites, il y a une agence de communication qui arrose des journalistes sur la place de Paris, un grand éditorialiste d'un grand quotidien, des patrons de chaîne, des intervieweurs radio qui se prennent tous de l'argent pour faire du média training. Quand Guillaume Pépi n'est pas content, il appelle pour avoir la tête d'un reporter. Vous ne dites, enfin, ça n'est que des insinuations. Puisque vous êtes libre, indépendant, que vous avez fait une enquête, que vous êtes sûr de ce que vous avancez, un grand éditorialiste de quel quotidien ? Quelle chaîne de télé se fait arroser par la SNCF ?
Vous auriez préféré des noms ?
Je ne sais pas, non mais je vous pose la question.
Des noms, vous savez, ce que vous êtes en train de dénoncer, c'est une évidence. Moi, je me souviens d'une excellente enquête qu'a fait France Inter sur le poids de la communication dans la SNCF. C'était il y a 6 mois à peu près, c'était un formidable travail. La question est toute simple.
C'est une évidence de savoir que des journalistes sont payés, arrosés individuellement par la SNCF pour bidonner la couverture du transport ferroviaire en France. C'est pas une évidence.
Le budget de communication de la SNCF, c'est 210 millions d'euros. C'est ce qu'avait relevé la Cour des comptes en 2013.
Dans les 210 millions, il y a quoi ? Il y a tout le budget publicitaire,
communication
globale ?
Oui, c'est le budget global, c'est énorme.
C'est un budget énorme.
Il y a beaucoup de choses. Enfin, l'agence de communication Tilder est mentionnée. Les médias training sont là aussi, sont établis. Enfin, après, moi, je veux bien citer des noms, mais là, on rentrerait dans un autre univers. Et d'abord, je ne vais pas citer de noms parce que nous ne voulons pas citer de noms. Mais le poids de la publicité aussi de la SNCF n'est pas un facteur neutre. Là aussi, enfin, faisons attention aux indignations professionnelles.
C'est pas de l'indignation professionnelle.
On peut dire les choses.
Vous n'êtes pas que dans une posture d'humilité. Vous êtes aussi dans une posture d'investigation, vous pointez des dérives du système, jusqu'où est-ce que vous êtes capable de les assumer et de les pointer
si nous les pointons, c'est que nous sommes tout à fait prêts à les assumer, de la même manière que nous assumons parfaitement le rapport d'experts publié à propos des passages à niveau à la SNCF, des difficultés, de la vétusté du matériel et de tout ce que nous publions. Ouais. Nous l'assumons, sinon nous ne le publierons pas, enfin c'est tellement évident.
Alors j'ai une dernière question à vous poser, parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Vous dites que c'est un journal non partisans. Et c'est une vraie question, parce que toute l'histoire de la presse magazine en France, elle s'ancre au contraire dans des combats idéologiques et dans des combats politiques. On a vu par exemple Society sortir en quinzomadaire et dire, nous, on écrit simplement ce qu'on a envie de lire. On veut des bonnes histoires. Donc se dépolitiser complètement. Vous assumez ça aussi, complètement ?
Qu'est-ce qu'on appelle politique ? Est-ce que la politique, c'est l'agenda des politiques ? C'est être en permanence dans cette proximité avec l'univers politique ? Ou est-ce que la politique, c'est parler de la société ? Voilà. La politique, c'est, dans notre esprit, c'est d'abord parler de la société, du monde tel qu'il va. Donc c'est un journal politique au sens de la vie de la société.
Mais quand vous ouvrez un journal sur l'opinion des Français qui est
dans
beaucoup plus favorable à faire changer la famille, quand vous ouvrez sur l'Europe remise à rude épreuve, vous vous inscrivez dans un camp quand même, qui est celui de l'ouverture européenne, des progressistes. Vous vous inscrivez dans un camp.
Nous nous inscrivons dans le camp de ce qui est en train d'avancer. Mais les choses sont en train de s'écrire. Ça n'est pas les journalistes qui vont les écrire. Ce sont les gens, la population. Toujours pareil, cette idée de revenir à la base. Vous savez, être populaire, c'est quelque chose. Être un journal généraliste, c'est tellement fort. C'est tellement compliqué.
Merci beaucoup.
C'est tellement beau.
Merci beaucoup, Patrick de Saint-Exupéry. Lisez-nous, lisez-vous, c'est l'hebdo et le numéro 1 est en kiosque. Je le rappelle, 3,50€, c'est pas banal comme prix. Bravo à Philippe qui a reconnu l'indicatif de Synergie. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.